le récit, Stéphane, vous nous racontez le destin de la Païva.
Historiquement vôtre.
Le récit.
Trois prénoms, trois mariages, deux titres et de multiples amants. Voilà comment on pourrait résumer l'ascension spectaculaire d'une femme qui a côtoyé les bas-fonds de la prostitution avant de tenir le salon le plus en vogue du Paris du Second Empire. Blanche, Thérèse, Esther. Trois identités pour un même personnage, la Païva. Un nom passé à la postérité, notamment grâce au palais éponyme sur les Champs-Élysées à Paris, qui attire encore aujourd'hui les curieux pour une visite privée. Nous sommes le 31 mai 1867. La Païva a 48 ans. La Païva vient d'accomplir son rêve. Dans le tout Paris, on ne parle que de la pendaison de crémaillère qu'elle organise pour inaugurer la demeure qu'elle s'est faite construire. Écrivain, journaliste, aristocrate, homme du monde et demi-monde, tout le gratin culturel se presse pour découvrir le luxe tapageur de cet hôtel particulier de style renaissance italienne conçu par l'architecte Pierre Mangin. À l'intérieur, tout n'est que faste et apparat. Escalier majestueux en onyx d'Algérie, salle de bain de style mauresque, peinture, sculpture. Bienvenue au Louvre du cul, comme le surnomment les frères Goncourt, venus se rencarder sur ce nouvel écrin. Qu'importe, la Païva, elle, jouit de sa réussite. Il faut dire qu'elle revient de loin. J'en profite pour vous dire aussi qu'une fois que l'hôtel particulier était construit, il y a le fils d'Alexandre Dumas qui a dit ce mot terrifiant. Il dit « Il ne manque plus que l'essentiel, le trottoir. »
Oh, il était taquin.
Esther Lachmann, de son premier vrai nom, a commencé sa vie en Russie, à Moscou plus précisément en 1819. Fille d'une famille simple de marchands de draps juifs, elle épouse un modeste tailleur français avec qui elle a un fils. Mais Esther ne veut pas de ce médiocre destin, non. Elle, vous savez, elle rêve d'une vie bien plus romanesque. Sans remords ni regrets, elle abandonne homme et enfant pour finir à Paris. C'est là qu'Esther devient Thérèse. Elle entame sa deuxième vie.
Elle vit de quoi ?
De prostitution.
Ah.
Dans le célèbre bordel d'Elisa, dite la Farcie, aux abords de Notre-Dame de Lorette, Esther Thérèse apprend toutes les ficelles du métier et se tague une sacrée réputation dans les milieux avertis. La voilà désormais qui maîtrise les jeux de l'amour et du hasard mieux que personne. À tel point qu'Henri Hertz, pianiste le plus réputé d'Europe au début des années 1840, tombe sous le charme de cette rousse incendiaire, aux traits étranges, marqués par ses origines mongoles et aux courbes sensuelles. Grâce à lui, Esther peut quitter les habits de Thérèse pour ceux de Blanche. Le virtuose Hertz, bien que ne pouvant l'épouser, la présente même comme sa femme légitime. Blanche s'intègre d'ailleurs parfaitement dans le milieu artistique de son mari, et pour cause, elle n'a rien d'une sotte, croqueuse d'homme, comme on pourrait l'imaginer. Dotée d'une culture impressionnante, c'est une femme douée et très intelligente. Elle parle très bien plusieurs langues, joue du piano d'une manière admirable et enchante grâce à ce don. Eh bien, elle enchante les artistes de renom qui sont invités dans le salon. Wagner, Liszt, Rossini, von Bülow, mais aussi Théophile Gautier avec qui elle se lie d'amitié uniquement.
Elle joue du piano devant Wagner et Liszt et elle les épate.
Oui, exactement.
Elle devait sacrément bien jouer quand même.
Avec eux, vous savez, elle peut parler d'opéra et de lettres, car elle lit beaucoup de la vraie littérature, mais les journaux aussi. Avec son ami Théophile Gautier, elle organisera même des dîners littéraires auxquels accourent des noms prestigieux. Émile de Girardin, Sainte-Beuve, Paul de Saint-Victor et même Gustave Flaubert. Bref, Blanche a tout d'une mondaine cultivée. Mais avec Henri Hertz, elle a beau retrouver un statut social un peu plus digne, et malgré la naissance d'une fille, Henriette, venue sceller leur union, on la refoule toujours aux portes de la haute société. À croire que les habits et les bijoux dont la couvre son mari n'ont pas suffi à nettoyer sa réputation. Même ses amis rechignent à l'introduire dans les salons huppés. Blanche comprend qu'il faut désormais un rang. C'est chose faite 3 ans plus tard. Après un bref passage à Londres où elle enchaîne les liaisons avec des lords anglais pour se refaire une santé pécuniaire, elle tape dans l'œil d'un marquis portugais catholique qu'elle n'a visé que pour son titre. Il Albino Francesco, marquis Araújo de Paiva, à son tour envoûté.
Il a tenté la portugaise. Faites venir David Cachorro.
Ou marquis Araújo de Paiva.
Non, David derrière la vitre, il a l'air déconfit.
C'est son nom. Il est à son tour envoûté. Et il épouse en 1851. Bien l'en a pris. Car Blanche, que l'on surnomme désormais la Païva, ne ménage pas son aristocrate de mari et dès la nuit de noces lui déclare « Vous avez voulu coucher avec moi, vous y êtes parvenu en m'épousant. Vous m'avez donné votre nom et cette nuit j'ai rempli ma part de marché. Je voulais un nom, je l'ai, mais vous, vous n'avez qu'une putain. » Avant de le congédier sans ménagement. Cynique la païva ? Assurément. Mais force est de constater qu'on a affaire à une femme qui sait ce qu'elle veut et ne s'en cache pas. Et si elle reprend sa vie de courtisane accumulant amants et diamants, elle continue sa quête. Certes, la païva est loin d'être une sentimentale, mais elle souhaite rencontrer un homme qui lui apporte considération et fortune, avec lequel elle pourrait partager les plaisirs de l'amour et ceux des affaires. Qu'elle maîtrise tout aussi parfaitement. Hein. Oui, Blanche a des relations partout. Elle sait gérer seule sa fortune, elle reçoit même chez elle banquier et économiste pour savoir comment placer son argent, elle investit en bourse, au singulier. Mais son meilleur investissement, c'est sans doute son dernier mariage. Eh oui, la païva atteint son Graal en épousant le comte Guido Henkel von Donnersmarck, richissime aristocrate de Silésie. Comtesse. Oh, qui l'eût cru ? Elle, sans doute. Et si l'amour qu'elle porte à Guido n'est pas désintéressé, elle n'est pas moins séduite par ce jeune homme de 7 ans, son cadet, qu'elle a attiré non seulement grâce à sa sensualité légendaire, mais aussi grâce à ses nombreux contacts. Jouissant d'une nouvelle fortune colossale, la païva peut donc mettre la dernière pierre à son édifice et mener à bien son projet de toujours. En 1848, alors très malade et de nouveau ruinée dans un hôtel miteux, elle avait déjà confié à son ami Théophile Gautier « Si j'en reviens, je veux avoir aux Champs-Élysées le plus bel hôtel de Paris. Rappelle-toi de ça. » Ça sera chose faite, 19 ans plus tard, grâce à son incroyable ténacité. Mais les pierres en tout genre peuvent-elles finalement suffire à hisser une femme de sa trempe hors de son extraction ? À cette époque, pas vraiment. La païva a beau tenir désormais le salon le plus célèbre de Paris et organiser des réceptions splendides les soirs d'été dans son nouveau château de Pontchartrain, aux yeux des aristocrates et des nobles, elle restera jamais cette bourgeoise parvenue, cette vieille courtisane peinte et plâtrée, comme la dépeigne sans détour les Goncourt, fascinée pourtant, malgré eux, par son magnétisme. La païva est sans doute déçue, mais après tout, c'est un esprit libre et elle n'a rien fait de son côté pour leur plaire. Et il faut croire que l'amour inconditionnel de son époux lui donnera raison, comme en témoigne cette étrange découverte posthume. La païva, soupçonnée d'espionnage et condamnée à l'exil, s'est laissée dépérir d'ennui jusqu'à en mourir en 1884. Le comte veuf s'est remarié et sa nouvelle femme découvre avec stupeur, dans une pièce du château conjugal, un corps dansant dans un cercueil de cristal, un sarcophage de verre. Il n'avait pu se séparer d'elle. Il la conservait dans de l'alcool.
Ouais, oui. Ne faites pas ça à la maison. Hein.
Il aimait la païva par-delà sa mort.
C'est magnifique, Stéphane.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.